Bonjour et bienvenue à la 56e émission d'Électron Libre. On est dans la saison 5 et je suis toujours en compagnie de Mélanie et Francis, mes acolytes fantastiques. Allô les amis?
Allô?
Ça va bien?
Oui.
Oui, nous serons encore là cette semaine pour vous parler de choses particulières. Entre autres, on va parler de masculinité toxique. On va parler de sagesse et on va parler de type d'influenceurs qu'il y a sur le web dans le monde. Mais avant toute chose, normalement, on fait un coup de cœur, coup de masse, mais cette semaine, on va faire un nouveau jeu. On va imposer à un de nos collègues sa chronique de l'émission de la semaine prochaine. On va y aller comme ça. Ouais. Donc, Mélanie, tu peux... ça sera quoi la chronique dont Francis devra parler la semaine prochaine?
Mais là, ce jeu-là, c'est complètement fou parce que là, j'avais un coup de masse. Là, c'est plus ça, on donne quelque chose. J'utilise mon coup de masse pour te donner le sujet de ta prochaine chronique.
Parfait.
Mon coup de masse, en fait, c'était le trio fabuleux qui est Éric Duhaime, Sophie Durocher et Richard Martineau. Ce que je voudrais que tu fasses, en fait, parce que je vais te donner quelque chose de saugrenu, comme dire, parle-moi d'épilation.
Ah, ouais, ouais.
Mais non, je ferai pas ça. Je veux que tu me convainques, en fait, que ces trois beaux os-là ont... Bref, j'aimerais ça que tu me convainques qu'ils ont leur place au sein des médias de masse en utilisant des fragments de leur texte.
Parfait.
Et que tu me convainques qu'ils ont leur place et qu'ils doivent être là au niveau des médias.
Excellent.
Parfait. Francis, qu'est-ce que tu m'offres comme chronique?
Bien, chercher un sujet qui te passionne et que tu connais beaucoup, les voitures sport.
Les voitures sport?
Oui. Ouais. Voilà, les voitures sport, les voitures remontées, qu'est-ce que les gars font pour pimper le genre, puis qu'est-ce qu'on fait? Moi, c'est un domaine que je connais absolument
pas. Moi non plus.
Je sais que tu as une bonne expertise, fait que parle-moi-en, s'il vous plaît.
Parfait, parfait, j'aime ça. Mélanie, toi, cette fois-ci, j'aimerais que tu nous parles du gun fu, non, l'art martial qui est entre le kung fu et l'utilisation des guns. j'ai appris que ça existait, ça me fait sourire. Maintenant, je te mets ça, tu vas pouvoir m'en parler mieux.
Ça va me faire plaisir. C'est un sujet qui me passionne.
Qui te passionne,
oui.
Donc, cette semaine, on va commencer avec toi, Mélanie. Tu vas nous parler de masculinité toxique. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression qu'on va encore se faire ramasser, moi, puis Francis.
Mais en fait, vous deux, non. Pas avec ce que je connais de vous, parce que je vous aime beaucoup. Puis si je vous aime, puis je suis avec vous, c'est que je vous aime. C'était beau,
c'est
ça?
Gentil.
Bon, alors. Bref, en fait, c'est un grand sujet. Puis encore là, il ne faut pas penser qu'on attaque quelqu'un. En particulier, si vous vous sentez attaqué, ben, je suis là pour vous en parler justement.
Okay.
Donc, la masculinité toxique, c'est vraiment un terme qui fait parler de lui de ce temps-ci parce que, bon, vous savez, les annonces de Gillette qui avait dans les années 80-90, disait la perfection masculin.
Ouais.
Hein? Je vous ai parlé de la femme il y a deux semaines. Là, je vous parle de l'homme aussi, parce que l'homme aussi a ses grands combats à faire aussi, et la masculinité toxique en est une. La perfection masculin, on montrait des hommes virils, musclés, fraîchement rasés, et soudainement apparaissait une femme conquise, l'embrassant, faisant « mon Dieu, que c'est sexy! » Bon... Gillette a proposé une nouvelle publicité qui est, ma foi, que je trouve fabuleuse, qu'ils appellent « Boys will be boys ». Vous irez la voir, tapez ça sur YouTube, Gillette « Boy will be boy », et qui met en avant-plan justement leur ancien slogan en montrant la diversité d'hommes et que maintenant l'homme n'est plus l'homme.
Comme moi, parfait.
Non, c'est ça exactement, mais que l'homme est beaucoup plus nuancé aujourd'hui dans sa manière d'être et que ce stéréotype-là viril doit, selon eux aussi, avec le mouvement MeToo, parce qu'on sait qu'avec le mouvement MeToo, l'homme stéréotypé, la masculinité toxique est beaucoup en lien avec ce mouvement-là.
Je pense que l'homme avait beaucoup à se poser des questions face à ses agissements. Puis des fois, il ne peut pas savoir où se situer comme homme. Là. C'est des questions qui sont légitimes.
Exactement. Exactement. Et aussi au niveau, écoute, la grande notion de consentement là, qui rentre en ligne de compte, il y a beaucoup ce sujet-là est actuel et là. Donc, je pense que la masculinité toxique, c'est beaucoup ça. En fait, de se poser des questions sur certains comportements. C'est bien ça. Regarde, aucun homme a osé faire ça à la télé, se mettre du Pepsi à la
Mais il y en a faute, il y a mal à la lèvre.
Justement. Donc, en fait, Gillette a lancé cette publicité-là qui a été très appréciée ou très contestée par beaucoup d'hommes en disant « Wow, on est-tu rendu là, tu sais? » Donc, je vais essayer de vous expliquer ça rapidement. La masculinité toxique ou l'image stéréotypée de l'homme, ça repose sur un concept selon lequel l'homme doit être viril et dominant. C'est un modèle spécifique. Et là, je ne parle pas de tous les hommes là en ce moment. Je parle de ce qu'est la masculinité toxique.
Okay.
C'est un modèle spécifique de la virilité orienté vers la domination et le contrôle. C'est une virilité qui perçoit les femmes et les personnes LGBTQ2+ comme inférieures, qui conçoit le sexe, par exemple, comme un acte non pas d'affection, mais de domination, qui valorise la violence comme seule façon de s'imposer dans le monde. C'est gros dit comme ça, mais il y a des degrés à ça. Il y a des subtilités au niveau de la société qui sont acceptées et qui sont une forme de masculinité toxique. Comme n'importe quoi, il y a des degrés différents. Le concept de masculinité toxique est utilisé en psychologie dans les études du genre en référence à certaines normes de comportement masculin en Amérique du Nord et en Europe qui sont associées à un impact négatif sur la société et sur les hommes. Ça a un impact sur les hommes. Oui. Un garçon, jeune garçon encore, c'est pas méchant ce qu'on fait. Un jeune garçon qui tombe, on arrête de niaiser, t'es un gars, là, ouais, on lève tout. On le voit de moins en moins, ça, l'éducation selon les genres. On essaie d'effacer ça avec nos enfants, que oui, un homme peut pleurer. Oui, un homme peut s'affirmer et dire « Oui, un homme peut porter du rose. » À mon époque, je ne suis pas vieille, j'ai 37 ans. Au secondaire, jamais que ça aurait passé un t-shirt rose à l'école. Un gars, ça ne porte pas de rose. Donc oui, les hommes aussi vivent une pression à ce niveau-là. Et mon Dieu merci, ça change tranquillement. Ça se veut de changer et c'est ça qui est...
Oui, je dis ça à ma fille, maintenant. Pleure pas, t'es pas un gars.
Ben, c'est ça, c'est correct. Parfait. Donc, je continue rapidement. Des trucs. Les stéréotypes traditionnels dépeignent les hommes comme socialement dominants, accompagnés des traits liés comme la misogynie, l'homophobie, hein, des jokes de mon oncle qu'on a déjà parlé. Quand on entend ça aujourd'hui, moi, j'entends des jokes de mon oncle ou des jokes de tapette ou des jokes sexistes.
Oui, c'est
des
ça. Ça nous rappelle la belle époque de Pimentfort.
Oui, il y a de l'humour aussi qu'on voit aujourd'hui. J'ai entendu dernièrement, puis oui, je vais le nommer, « A Number » de Peter MacLeod, où je me disais « Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? » Je giflerais, là. Oui. Mais je ne le ferais pas, il n'est pas là. Donc, il y a des chercheurs qui affirment que les rapports sociaux des garçons normalisent souvent la violence. Hein? « Boys will be boys », comme on en parlait, deux petits garçons qui se battent. « Laissez-les faire, c'est des gars. » T'sais, laissez-les faire, ils s'amusent. Mais l'autre, il y en a peut-être un des deux qui n'aime pas ça nécessairement. Ouais. Donc, en psychologie, la masculinité toxique, ça réfère à des normes masculines culturelles, traditionnelles. C'est très culturel. On parle beaucoup en Amérique, en Europe et tout ça. Donc, qui peuvent être nocives pour les hommes et pour les femmes. On parlait du mouvement MeToo. La société dans son ensemble, le concept de masculinité toxique n'est pas destiné à diaboliser les hommes ou les attributs masculins, mais tend plutôt à mettre en évidence les effets nocifs de la conformité de certains idéaux traditionnels des comportements masculins. Puis là-dessus, bien, on parle aussi beaucoup de consentement au niveau de la femme. Tellement au niveau du consentement.
Mais c'est parce que pendant des années, on disait aux petites filles, faites attention à ci, à ça, mais on oubliait que c'est les petits gars qu'il faut éduquer aussi.
C'est les garçons aussi, beaucoup, qu'il faut éduquer. Il ne faut pas faire peur aux filles en disant que les hommes sont tous des... J'utiliserai pas le terme, mais des... Ben non,
Il y en a juste un de nous deux qui est calme. Là.
Non, mais c'est ça. Puis moi, ce que j'ai devant moi et mon chum, par exemple, c'est des hommes très féministes, très près de la femme pour justement l'équité homme-femme. Mais c'est en partant de l'éducation de nos petits garçons qu'on va en faire des hommes justement qui ont une sensibilité à l'autre. Il me resterait une minute. Qu'est-ce que je dirais dans cette belle grosse page-là? Les atteintes contemporaines liées à la masculinité toxique peuvent produire des effets toxiques tels que de la promiscuité envers les femmes qui ne sont pas des comportements excessivement risqués, socialement irresponsables, tels que l'abus de suspense pour certains hommes. Un alcoolique, ça passait très bien. Une femme alcoolique, on démonisait la femme, mais on aurait dû aussi démoniser ces problèmes-là chez l'homme. Et ce qui vient à me dire que, finalement, pour l'homme, c'est une belle manière de prendre conscience sans penser que vous êtes totalement atteint de masculinité toxique. Des petites choses à changer chez vous, comme des petits comportements.
Juste réfléchir. Se remettre en question. Moi, quand il y a eu le mouvement MeToo, j'ai repensé à mon adolescence et j'ai fait... J'ai fait partie de ça, moi, solide.
Parce que
j'ai changé.
Oui, puis de se poser la question, ce n'est pas nécessairement de se flageller puis de dire « Mon Dieu, je suis un agresseur sexuel », par exemple, si on parle de consentement et tout ça, mais de réfléchir justement pour adapter son comportement à une époque où l'homme et la femme veulent justement vivre ensemble et profiter pleinement de l'autre avec consentement et amour et respect.
Merci, Mélanie.
Posez-vous des questions simplement. Et on en discute. Bon. On a flagelle personne. Ça,
jamais que je ne vais manquer de respect envers une femme. Ma blonde veut pas.
La féminité toxique, ça existe-tu?
Non, sûrement.
Sûrement. Sûrement. Oui, très. Une germaine, là. Ah, oh, mon Dieu.
Ça existe. Moi, je vais vous parler des influenceurs. On sait que c'est un peu à la mode, ouais. Là, les influenceurs. Moi, je vois beaucoup chez les jeunes. Mon garçon, d'ailleurs, qui a 11 ans, lui, son rêve en ce moment, c'est d'avoir mm-hmm. une chaîne YouTube. Il en a ouvert une, puis il parle de ses affaires. Puis,
non, c'est ça aussi.
Ben, c'est ça. Il trouve ça bien intéressant. Fait que je me suis posé la question, c'est quoi un influenceur? Bon, c'est quelqu'un qui va sur le web, va parler de différentes choses. Et là, je vais décortiquer. J'ai trouvé un article qui date de 2017 avec les 2017 où on a catégorisé en 10 grandes catégories distinctes d'influenceurs. On a premièrement l'influenceur travel, voyage.
Hein? Ah, oui.
Lui, spécialiste dans le voyage. Il a parcouru le monde, puis il nous le fait savoir. Il a découvert des destinations de rêve, il est allé, il a fait plein de choses, il a des coups de cœur, il veut nous en parler. Ils sont pas là autant, ils sont pas là tant souvent pour faire la promotion des destinations que pour faire leur promotion
de leur belle vie.
Ouais, de leur belle vie, de ce qu'ils ont fait, de tout ça. L'influenceur, ça serait l'influenceur de luxe. Hein? Lui, il est spécialisé en produits de services haut de gamme. Il représente des marques de textiles, de cosmétiques, d'hôtellerie, d'automobiles. Mais lui, il est niché. Tu es un amateur de luxe. Moi, je vais te parler des meilleures des tendances de luxe.
Et tu savais qu'ils reçoivent des cadeaux, hein, les compagnies.
Ben oui,
mais
oui.
Et puis, ben c'est taré, puis ils déballent ça, puis ils font montrer qu'ils sont chanceux, ben puis les gens envient ça.
C'est ça, oui. Il y a vraiment quelque chose. Il y a une nouvelle catégorie qui est apparue en 2017, qui est les influenceurs ultra-luxe. Qui, eux, sont les influenceurs de luxe, mais nichés. Hein? Ils vont une coche au-dessus. Ils se spécialisent dans les produits et services qui présentent des biens de consommation minimum de 100 000 $ Là, on peut parler de yachts, de villas, de joaillerie, de voyages, des affaires complètement là, absurdes là, que moins de 1% de la population peut vraiment se payer. Mais il reste qu'il y a ces influenceurs.
C'est des gens avec un discours très, très profond, pertinent.
Oui, oui. Notre genre. On a les influenceurs lifestyle, hein? Spécialisés dans les tendances, les effets de mode, qu'est-ce qui est à la mode, qu'est-ce qui est tendance, qu'est-ce qui est à jour, qu'est-ce qu'il faut savoir avoir lu, avoir vu, avoir écouté, etc. Comment s'habiller, là, maintenant. On est beaucoup dans le maintenant, là. On a ceux-là. On a les influenceurs food, donc nourriture, spécialisés dans la restauration, hein? Donc, eux, ils vont manger à des places, souvent gratuitement. Ils vont offrir pour en parler. Ils vont manger et ils vont commenter ce qu'ils ont mangé. Donc, ça peut être intéressant parce que tu peux voir à l'intérieur des restaurants, de quoi ça a l'air, la nourriture, le service. Donc, tu peux avoir quelque chose. On a les influenceurs business. Hein? Ça, c'est les plus rares du marché et les plus compliqués à approcher. Ils sont souvent bien implantés dans le monde. Ils n'ont pas besoin de faire ça. C'est des gens qui viennent de la communication, du marketing. Ils vont parler souvent de leur business, comment eux fonctionnent. Plutôt que de dire aux autres comment faire, ils vont prêcher par l'exemple. Nous, on fonctionne comme ça. Puis là, ça peut faire des petits. Donc, c'est comme
ça
qu'ils vont influencer.
Ben,
en fait, si je te montre comment faire une omelette, tu risques de savoir comment faire une omelette.
Je serais peut-être pas capable de la
faire. Peut-être qu'elle ne sera pas capable de la faire à ma manière parce qu'il y a plein d'autres facteurs, mais l'idée reste là. On a les influenceurs sport. Hein? On est beaucoup dans la mode. On sait déjà que les chroniqueurs sportifs, c'est du n'importe quoi. Mmh. Imaginez maintenant les influenceurs sport. Tout le monde a son mot à dire. On devrait échanger notre moins bon contre Sidney Crosby. T'sais, comme si l'autre déjà allait vouloir ça. Donc, spécialistes des sports, eux sont aussi intéressés par les marques, les produits. En fait, c'est des sportifs de salon qui ont le goût de nous dire ce qu'ils pensent.
C'est ça.
C'est tout, c'est tout. Mais écoute, Michel Bergeron fait la même affaire, puis il est archi mauvais. Il a déjà été bon, mais là, il vieillit mal, mon Dieu Seigneur. Il y a une sous-catégorie des influenceurs sport qui est en train de se développer. Ce sont les influenceurs fitness. La mise en forme, hein, c'est une belle mode. Là. C'est rendu le nouveau dogme, hein, la mise en forme. Autre chose, on a les influenceurs du métier de l'artistique. Eux, ils vont plus parler de l'événementiel. Qu'est-ce qui se passe? Aller voir tel spectacle, c'est là. Ils parlent à des communautés assez précises. Hein? Faire la promotion de spectacles, d'événements, de festivals, tout ça. Bon, on est plus là-dedans. Les influenceurs politiques, depuis l'arrivée de Donald Trump, ça s'est multiplié. Lui-même en est un. Donc, c'est devenu un outil indispensable pour les politiciens. En fait, on le voit aux États-Unis en ce moment. L'image. Donc, comment? Puis on sait, Trump gère, en fait, le pays avec ses tweets, là. On a les influenceurs grand public. Eux, c'est un peu... ils viennent souvent... On pourrait les comparer à la télé-réalité. Tu sais, là, ils vont se créer un monde grand public. Eux, ils parlent à tout le monde. Monsieur, m'entends. Tu sais, ils sont vraiment, là... on recrée la vie, là, qu'est-ce qu'on devrait faire, etc. On peut donner des trucs de n'importe quoi. Grand public, on peut... moi, je vois des fois mon garçon écouter du monde qui déballe des paquets de cartes ou des jouets. Je me dis que ça rentre là-dedans. Là, on est en train de faire.
Il y a un enfant de 10 ans multimillionnaire hein, qui s'est acheté une maison. Ouais,
et voilà.
Influenceuse.
OK.
Okay.
Ah, non, c'est ça. Il vient de s'acheter une maison à 6 millions.
Et voilà, tu vois.
Ouais.
Donc, les autres aussi, ils sont là-dedans. Maintenant, pour l'avenir, hein, le développement du marketing d'influence va vraiment grandir. On voit de plus en plus d'influenceurs. Ceux qui s'en viennent, donc selon les tendances, les deux prochaines catégories qui devraient apparaître, on a les influenceurs science, beaucoup en lien avec l'environnement, entre autres. Parce que, ben oui, parce qu'ils vont nous donner des données, de la vérité. Mais maintenant, à chaque influenceur, il va avoir son compte influenceur avec les théories du complot, puis l'homme n'a jamais été sur la lune. Et aussi, finalement, le prochain le type d'influenceur devrait être l'influenceur moral, qui va nous poser des questions, peut-être plus sur ce qu'on est. Tu sais, on est beaucoup dans une société qui est en mal de vivre. Ben, je pense qu'on va voir de plus en plus ça.
Tranquillement,
c'est ça.
Environnemental et moral, éthique, là, tout ça.
Fait qu'on va voir, c'est un monde qui est en développement.
Beaucoup de. Je fais une petite parenthèse, oui? J'en rajoute un.
Mais oui.
Famille, maman, hein, les mamans à la maison qui donnent des trucs, les femmes enceintes.
Ouais, mais lifestyle, hein, c'est lifestyle, beaucoup ça. C'est on ça, est, on est là-dedans. Là, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est multitask, dans le sens où on va nous parler de cuisine, de ménage, de maquillage ou peu importe. Il y en a énormément. Mm-hmm. OK, maintenant, Francis, tu vas nous parler de sagesse. Non?
Pierre, Mélanie, vous m'avez fait réfléchir dans les dernières semaines.
Oui.
Tu nous as parlé de voyage dernièrement. Tu nous as parlé de... Bon, c'était plus au niveau de l'écotourisme. Mais je voyais un retour sur soi, prendre le temps de réfléchir, de s'arrêter. Oui. Mélanie, tu as parlé de l'image corporelle dernièrement. Tantôt encore, tu parlais un petit peu d'un côté qui peut être toxique. Ça m'a amené à réfléchir, à me dire, bon, à 46 ans, à ce moment-là de ma vie, comment pourrais-je voir ou cibler, déterminer mon niveau de sagesse? Est-ce que je suis capable d'avoir ce recul-là?
Okay.
Fait que j'ai ouvert la boîte de Pandore.
Et de la sagesse.
Ça, je vous le jure, quand tu vas sur Internet et que tu questionnes ou que tu fouilles côté sagesse, il y a du grand n'importe quoi.
Ouais.
C'est incroyable les milliers de sites qui existent.
Mais sur tous les sujets, en fait.
Sur tous les sujets. Non, mais attends, là. Tape bien-être, être bien dans sa peau, la vie. Non, mon gars, là. Je te le jure, c'est fou raide. Avec des potes. Des pubs qui apparaissent.
Mais on sait, hein, on a fait 56 sujets x 3 hein, depuis. On fait beaucoup ça.
Bien, on a joué beaucoup Internet. Là-dedans et on a fouillé beaucoup là-dedans. Mais là, j'ai dit, je vais plonger.
Okay.
Et ce que je me rends compte, c'est que, avec certains critères que j'ai réussi à trouver pour être capable de voir où j'en suis là-dedans, on n'est pas pire. Mais il y a un grand besoin, il y a un vide. Tantôt, à un moment, tu as parlé d'un mal de vivre, de la société, bon, etc. Il y a clairement quelque chose, parce qu'on peut être nourri d'un paquet d'affaires, d'être stimulé, d'être impliqué, de faire plein d'affaires. Le pas de recul qui nous permet d'avoir un regard sur certaines choses, bien, il est difficile à avoir, puis cette littérature-là peut nous aider un petit peu. Donc, voici comment on va.
Vas-y, on t'écoute.
Vous allez voir, je vais m'évaluer en passant sur les 7. Je suis assez pas pire sur certains. Le 7e, je l'ai pas, je suis mauvais.
Okay.
Le premier, c'est l'appréhension bonheur. Donc, qu'est-ce que le bonheur? Je suis capable de vivre de petits bonheurs et non pas espérer être heureux. Si moi, espère pas être heureux, n'espère pas le bonheur. Apprécie ce que tu es, ce que tu as, apprécie les gens.
Crée l'univers dans lequel tu as le goût de vivre.
Oui, puis arrête de chercher, puis regarde en avant de toi, puis autour.
Le premier, respect de mon corps. Ce que tu as lamentablement échoué pendant plusieurs années, effectivement, c'est mon véhicule pour les 80 ans. Je ne sais pas, dans le temps, c'était l'espérance de vie d'un homme qui était 76 ans. Maintenant qu'on est autour de 80. J'ai 80 ans à faire. Clairement, les choix que je fais présentement, et j'en suis conscient maintenant à 46 ans. À 20 ans, j'aurais été mauvais, je me suis scrappé. À 30 ans, je me suis scrappé. Je vous le dis, personnellement, à 46, je commence. Je ne suis pas bon, je commence. L'intériorité. La phrase dit « Ce n'est pas un hasard si toutes des sagesses proposent des exercices, dont les plus connus sont la méditation, le yoga, destinés à nous remettre à l'écoute de nous-mêmes. » Ça a l'air ésotérique, mais le temps de recul, le temps que tu prends sert à ça. De s'écouter, de se donner le droit de dire non à des affaires qu'on n'a pas le goût de faire, de notre façon d'entrer en relation avec les autres. Donc, de s'écouter, nous, là. Si ta présence ne m'est pas nécessaire dans ma vie et qu'elle est désagréable, change de place, ou cette chose-là que tu fais, ça ne t'intéresse pas. Le métier que tu fais, la façon de te réaliser, la conjointe que tu as.
Fais des bons, fais les
choix.
Bien, va te voir en dedans, pose-toi les bonnes questions. Ça fait mal, les réponses, des fois.
Ouais.
Ça fait mal, mais il faut le vivre. Mm-hmm. Disposition réelle, je suis au numéro 3. L'ennemi intime du sage, c'est l'illusion. Et même, selon certains, l'espoir. Car les deux nous font décoller du réel. C'est, on ne peut pas vivre dans une bulle et se dire que tout est beau. Après qu'on est capable de revoir notre fil Facebook puis se faire, oh mon Dieu, j'ai une belle vie. Mais non, pose-toi les vraies questions et le réel.
Se faire à croire aussi. Hein? Moi, dans la vie, je suis capable de faire ça comme tu veux. Mais tu l'as jamais fait.
C'est ça.
Non, c'est ça.
Moi, je suis pour l'environnement, dit-il, en arrivant à la maison.
Oui, puis toujours justifié. Pourquoi tu le fais pas? Tu as toujours des bonnes raisons de ne pas le faire. Ben, mais tu sais, tu as un objectif.
Ce serait moins de 2 minutes.
Check-moi bien, moi, te rappelle ça. Distanciation, détachement. Donc, avoir, prendre du recul. En complément, le détachement libère le sage des contingences, en particulier matérielles, qui. Plusieurs de ces contemporains. Bon, ben bref, se détacher le plus possible du matériel, bien entendu, vous en dites.
Oui, parce que je veux dire, quand on vieillit, il y a une étude qui a été faite sur 75 ans qui démontre que ce qui nous rend le plus heureux, c'est nos relations humaines.
Ben oui. Voilà.
On en parlait dans une chronique passée, justement, des voyages que tu parlais, où ce qui nous marque dans le voyage, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas le luxe de la chambre d'hôtel, c'est l'expérience, souvent la rencontre humaine. Les préjugés. Les jugements, c'est dur. Numéro 5, je travaille là-dessus. Préjugés, jugements, c'est rapide. On le fait coup de cœur, coup de masse depuis 56 émissions. On a des opinions, on a des jugements, ça vient nous chercher. On en a parlé avec Mélanie Desvoix, et que ça me travaille telle affaire. Faut réussir à garder cette distance-là. C'est pas l'autre que tu pénalises, que tu punis.
Non.
C'est toi qui vis tes babites puis qui fais pourquoi ça vient me chercher? Bon,
faut se poser des questions. Ouais. Bon, ça revient à ça.
Les deux plus importants, un que je réussis quand même assez bien, vivre au présent.
Ah, ça aussi, moi, je réussis.
Moi, dans ma vie, l'espace que j'ai créé pour un coin reculé, dans ma vie physiquement, mais que je m'oblige à ce moment-là d'avoir un pas de recul sur un paquet de trucs. Les vacances, c'est pas merveilleux pour les 60 affaires que j'ai faites en famille avec les enfants, merveilleux, les beaux moments. Les vacances, là, ce qui les rend magiques, c'est qu'on a le luxe, qu'on se prend le luxe, qu'on se donne le luxe, de prendre le temps de s'arrêter à certains moments. Et ça, c'est la plus belle affaire.
Pis c'est triste de penser qu'il y a des gens 48 semaines par année qui sont pas heureux dans le présent.
Voilà.
Moins d'une minute.
Hey, check-moi bien. Numéro 7, c'est apprivoiser la mort. Mm. J'ai 46 ans, je vous l'ai dit, donc statistiquement, il en reste moins qu'il y en a à faire. Et on commence à être confronté un peu plus à l'âge que j'ai, à nos parents qui décèdent. Bon, à une réalité. On va de plus en plus au salon souvent. Bon, on est confronté à ça et ça nous amène quand je serai là.
Ça nous fait sortir.
C'est bon, le social.
Salon.
Moi, je suis pas prêt. Je suis certain que le cheminement de la vie nous amène à un état d'esprit qui nous dispose à ça. Moi, je ne suis pas. Quand je pense à l'arrêt, et à l'infini qui vient après, je suis capable d'en parler, je suis capable de le rendre de façon cognitive. En dedans, ça me fait un malaise profond.
Mais donc, je ne suis pas prêt à mourir, mais si ça devait arriver, je sais que quand je regarde derrière moi ma vie, je suis très fier de mon parcours,
mais
de ce que j'ai fait.
Est-ce que tu es à l'aise avec la suite qui est infiniment vide?
Ben oui, non, parce que je la remplis à mesure que je te parle.
Ben, c'est ça.
Oui, puis quand ça arrivera, je ne serai pas heureux, mais je vais voir.
C'est parce que. Fait que bref.
Merci, Francis, pour ta sagesse.
Merci.
Moi, je vais vous faire un petit top 10 d'accouchement, des méthodes d'accouchement un peu louches qui existent à travers le monde, parce que ça m'a fait bien rire, je vais faire ça rapidement, il reste plus beaucoup de temps. Chez les Indiens, Wichol de la Sierra Madre, c'est ça, c'est lui qui me fait le plus triper, en fait. Pendant que la femme accouche, son père va, le père, là, l'homme, va au-dessus du visage de la femme, mais nu, et on attache une corde après ses testicules. Et chaque fois que la femme a de la douleur, elle tire pour donner la douleur, pour partager la douleur de l'accouchement avec l'homme. Quand même, quand même, quand même.
Pourquoi je suis ligaturée? Pourquoi?
Chez les Hollandais, hein, on accouche chez soi. C'est le plus haut taux. C'est 30 % des Hollandais qui accouchent à la maison. Mm. Contrairement à 2 % en France, par exemple. Okay. Donc, c'est ça. C'est ça. Au Maroc, l'accouchement traditionnel, là, je dis pas, ils ont des hôpitaux là-bas. Bon. Accouchement traditionnel, OK? Les accoucheuses vont masser le ventre et la vulve de la femme à l'huile d'olive, puis on va gorger le futur mère d'infusion au thym et à la menthe. Il n'y a que les femmes qui ont le droit d'être là.
Ça sert à quoi?
Ben, ça va être le fun de faire frotter à l'huile d'olive.
Attends, il y en a des plus louches que ça. En Inde, hein? En Inde, la femme, quand c'est ton premier bébé, tu vas accoucher chez ta mère. À partir du deuxième, tu vas accoucher chez ton mari. Puis l'accouchement est marqué par une série de gestes d'ouverture qui symbolisent la dilatation du col. On détache les cheveux, on enlève les bijoux, on ouvre les portes, les fenêtres. C'est super cool, là, nous. En Bosnie, le père assiste pas à l'accouchement, mais il couvre la sage-femme de cadeaux. C'est culturel.
La sage-femme, la couvre de cadeaux.
Il la couvre de cadeaux. Oui, quand même. Ou en Chine, OK? Une fois que la femme a accouché, il y a plusieurs de la Chine, mais il y a plusieurs sections là, et cultures différentes en Chine. La femme chinoise, elle doit se reposer pendant un mois, OK? Et elle ne peut pas prendre froid. Fait qu'elle ne peut pas se laver, manger des aliments froids, allumer le climatiseur ou ouvrir les fenêtres. Pendant ce temps-là, c'est la grand-mère qui se tape le bébé. Parce que c'est bien, le mari ne peut pas s'en occuper.
Mais non.
Au Pakistan, toutes les semaines après la naissance du bébé, pendant la première année, on va lui raser la tête et sacrifier un animal pour son bien.
Non, chez nous aussi, on fait ça.
Ouais, okay. chez certaines coutumes jamaïcaines, la mère va avaler le placenta. Ça se pratique beaucoup dans le monde animal. Mais le principe est simple. Quand l'accouchement est terminé, on prend le placenta et on se fait un bon steak avec. Mm-hmm. Ça, c'est ce qui va leur donner des forces et aider à combattre le baby blues.
J'ai entendu.
Ouais. Mais les animaux le mangent à cause du fer.
Et chez les Wolof, hein, quand un bébé naît, on crache dessus.
Ah.
On le lave avec les crachats de la famille. Là. On crache dessus.
Ah oui.
Et finalement, le plus dégueulasse, chez les Manchus. Mais écoutez, là, je vous dis ça, c'est un jugement, mais c'est un jugement. Quand la bébé est née, les filles se font toucher le clitoris joyeusement, tandis que les garçons se font faire une fellation par leur mère.
Par leur mère?
Oui, c'est ça. Écoutez.
J'ai
vu ça sur le topito.com. C'est fantastique, on a plein d'informations là-dessus. Et sur plein d'autres sujets un peu loufoques. Merci à toutes, à vous. On se voit la semaine prochaine avec nos défis de chronique. Merci d'avoir été les nôtres. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Electronique. Bye-bye.